que eux possédaient des mitrailleuses d'avant-guerre. Et par contre, la Pologne était un pays antisémite. Il ne faut pas oublier qu'en Pologne, en 1919, lors de la conférence de la paix, lors du traité de Versailles, eh bien, la Pologne s'est retrouvée avec un certain nombre de minorités. Des Ukrainiens, des Biélorussiens, etc. Un certain nombre de minorités, dont la minorité juive. Et cette minorité était très importante. Mais la plus faible de toutes ces minorités était la minorité juive. Celle qui avait le moins de possibilités de résistance. Et par conséquent, les Polonais, fidèles à une tradition et à une situation présente, il ne faut pas oublier aussi que entre les deux guerres se crée en Pologne une classe moyenne qui a pour concurrent les Juifs, au premier chef, les concurrents économiques. Eh bien, cette classe moyenne est terriblement opposée à cette population juive qui joue le rôle de concurrent. Donc, un antisémitisme violent, qui s'est traduit d'ailleurs en Pologne par des actes extrêmement violents, par des pogroms. Et bien que au Sejm, c'est-à-dire au Parlement polonais, il y ait eu le kolos, qu'on appelle, c'est-à-dire le club de députés juifs, qui a été longtemps présidé par Yitzhak Grünbaum et qui était un groupe parlementaire assez fort, mais en réalité il ne pouvait rien pratiquement. Pour citer un certain nombre de cas, en 1930-1932, il y a eu à l'université de Varsovie un certain nombre d'actions antisémites qui tendaient à créer le numerus clausus. Eh bien, les Juifs se sont trouvés attaqués par l'indexia, c'est-à-dire le droit des étudiants de droite dans ce cas-là, et la police polonaise regardait, et quand elle intervenait, c'était contre les Juifs et non pas contre les étudiants polonais qui venaient frapper les Juifs. Donc dès avant-guerre, il y avait une situation favorable à l'antisémitisme et à la destruction du peuple juif. Et il faut aussi noter que la masse polonaise avait conservé cet héritage d'antisémitisme. D'ailleurs, pas seulement le clergé, la masse aussi. Oui, le clergé l'avait suscité dans le temps, mais les événements avaient bien dépassé le clergé. Lorsque les Allemands ont occupé définitivement la Pologne, eh bien, aussi paradoxal que ça puisse paraître, un grand nombre de Polonais trouvaient justifié de détruire les Juifs. Ils disaient, c'est le seul service que nous rendent finalement les Allemands, c'est de détruire la population juive. Alors que ces mêmes gens, très souvent, étaient des résistants ou des opposants farouches à l'occupant allemand, mais sur le plan de l'annihilation de la population juive, ils voyaient cela positivement. D'autres questions? Oui? Alors là, il y a encore un certain nombre d'attitudes mitigées. Tout dépend dans quel groupe de partisans vous tombiez. Il ne faut pas oublier que, ici on parle à nouveau de l'armia Krajowa, n'est-ce pas, de l'armée de l'intérieur. Si vous tombiez sur une section de partisans d'extrême droite antisémite, et le fait est connu, des gens qui ont échappé au ghetto de Varsovie, au ghetto de Bialystok ou à d'autres ghettos, il y a beaucoup de ghettos qui se sont révoltés. Eh bien, ils étaient exécutés par les Polonais. Si vous tombiez sur un réseau du PPS, c'est-à-dire du Parti Socialiste, oui, enfin un des groupes, une des régions. Mais il y avait une chance de ne pas être tué. Mais tout dépend. La réponse est très nuancée. D'une manière générale, la forêt offrait un refuge que n'offraient pas les ghettos. Oui. Exact. Oui, non, absolument, absolument. Oui, mais je n'ai pas parlé de la Guardia Ludowa, parce que elle n'était pas intégrée, n'est-ce pas, à cette Armia Krajowa, cette structure de l'armée de l'intérieur. Elle est tout à fait à part. Ah non, non, pas en 40. Non, non, alors là, je ne suis pas d'accord. En 1940, lorsque le ghetto est créé, très rapidement, toutes les organisations juives se reforment, sauf une, une cellule du Parti communiste. Il faudra attendre la rupture du pacte germano-soviétique pour que Joseph Lewartowski soit parachuté dans les environs de Varsovie et gagne le ghetto. Joseph Lewartowski était un des chefs du Parti communiste, était un clandestin, n'est-ce pas, et qui a été envoyé par les Russes spécifiquement à cet usage. Et à ce moment-là, on recrée un Parti communiste qui, il faut le reconnaître, dès 1942, est l'initiateur d'une résistance armée. Lewartowski, dès qu'il pénètre dans le ghetto, réunit toutes les organisations juives et c'est lui qui est à l'initiative d'une première structure de résistance qui s'intitule le bloc antifasciste. Et d'ailleurs, la notion de bloc antifasciste est une notion introduite par Staline au moment de la rupture du pacte germano-soviétique en 1941, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que propose Staline en 1941 ? Il dit partout où il y a une occupation allemande, doivent se créer des comités antifascistes, des comités de résistance qui vont mener une lutte violente. Et c'est ce que fait Lewartowski dans le ghetto de Varsovie. Oui. Oui, mais il n'y a aucune structure clandestine du Parti communiste à cette époque-là. Absolument. Donc, ils n'ont pas intérêt à recréer un cadre de résistance, oui.
À Rostov-na-Donu, en Russie. Et le numerus clausus était aboli. C'était donc dans les universités polonaises qu'on acceptait les juifs. Moi, n'est-ce pas, c'était accepté, j'ai commencé, n'est-ce pas, la faculté de droit, qui était tout à fait médiocre, n'est-ce pas, ces professeurs polonais en russe à Rostov-na-Donu, qui c'est un centre de croisade, et donc, n'est-ce pas? Alors, j'ai vécu à Moscou, mais à la fin de l'année, je revenais, je prenais les notes chez une camarade et j'ai passé les examens. C'est comme ça que je suis devenu candidat en droit. Donc, dans l'université de Varsovie. Ça, c'est une petite marginale. C'est une marque marginale.
D'autres questions ?
Et actuellement, quelle est la situation des biens et du patrimoine juif en Pologne, entre les mains de qui ?
Si j'étais méchant, je dirais entre les mains de personne. Il est à l'abandon le plus total. Personne ne s'en occupe, au contraire. On le laisse dépérir. Oui, mais vous savez
que...
À ma connaissance, on ne peut rien sortir d'une manière générale des pays de l'Est. Et surtout ce qu'ils appellent patrimoine artistique, qu'il faudrait mettre ici entre guillemets. Il y a vous avez parlé de Frépère qui s'en est occupé. Oui, mais vous savez, qu'est-ce qu'on peut... Contre l'appareil du parti, d'une manière générale, on ne peut pas faire grand-chose. Et de Roumanie aussi. C'est un, le cas de la Roumanie est, un, est, 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 est à part dans cet ensemble, n'est-ce pas? La Roumanie a une attitude à l'égard des problèmes juifs, quoique la population, c'est pas du tout notre sujet, mais enfin, quoique la population juive en Roumanie soit très contrôlée et très maintenue, n'est-ce pas? Mais il y a tout de même une certaine liberté qui est accordée au niveau du moins idéologique et culturel qui est laissé aux juifs de Roumanie. Et par conséquent, le patrimoine juif en Roumanie est préservé. Alors qu'en Pologne, si on visite les cimetières polonais aujourd'hui, les cimetières juifs, on est assez effrayé de leur état. Les synagogues polonaises, vous savez, pour ce qu'il en reste, n'importe comment, il faut bien se dire que le patrimoine qui existe encore en Pologne aujourd'hui est très réduit. Parce que soit il a été évacué par les Allemands vers d'autres contrées, soit il a été détruit. Il ne faut pas oublier que les Allemands détruisaient systématiquement les traces juives en Pologne.
Un peu le phénomène, n'est-ce pas, qu'il faut souligner. En ce qui concerne les yeshuvs juifs,
on a très souvent tendance à croire que le bouddhisme en Pologne était un mouvement assimilationniste. C'est totalement faux. Le bouddhisme en Pologne est un mouvement anti-assimilationniste. C'est l'ethnie juive par excellence qui se maintient sur la base du yiddish. Et en tant qu'ethnie, en tant que minorité, n'est-ce pas? Et ce n'est absolument pas un mouvement qui tend à devenir polonais dans toute l'acceptation du terme.
Il n'y a pas de volonté d'un changement de la part du gouvernement polonais. Tout récemment, on a inauguré les pavillons juifs à Auschwitz. Il y avait même Dr. Naum Goldman qui était présent, il y avait des délégués de l'État d'Israël. En plus, il existe la photographie de
Oui, alors je veux simplement et très rapidement répondre. Je ne crois pas au changement actuellement des autorités polonaises, et je vais vous expliquer pourquoi, justement en parlant du musée. Premièrement, lorsque on a décidé de faire un pavillon juif à Auschwitz, les Israéliens ont été invités, Yad Vashem, entre autres, a été invité à participer à l'élaboration de ce pavillon. C'était très intéressant dans la mesure où il semblait, pour les autorités israéliennes, qu'il y ait une possibilité de changement. Les Israéliens y sont allés, un certain nombre d'Israéliens, pas seulement d'ailleurs d'Israéliens, le CDJC, le Centre de documentation juive de Paris, a été représenté aussi, et les Israéliens ont essayé d'y introduire le maximum d'éléments de résistance, etc. On a créé un pavillon juif qui détermine toujours une certaine idée, n'est-ce pas? Les Polonais ont fait ça à leur guise, en acceptant un certain nombre de suggestions, et c'est tout. Ce qui est intéressant, c'est que pour l'inauguration de ce pavillon, il n'y avait pas grand monde d'invités, d'abord. Et les Juifs de Paris, qui avaient participé, entre autres, à l'élaboration de ce pavillon, Georges Wellers, Serge Klarsfeld et d'autres, se préparaient à y aller. Il se préparait à y aller, mais on a refusé le visa d'entrée à Beate Klarsfeld. Par conséquent, ils n'y sont pas allés. Et ce petit fait n'a l'air de rien, mais en réalité, c'est un phénomène extrêmement extérieur et officiel. Officiellement, la Pologne veut donner un bon visage. Un bon visage, et c'est tout. Car si je n'ai pas été à Auschwitz pour voir ce pavillon, mais d'après ce qu'on en a rapporté, il ne faut pas s'imaginer que c'est un musée Yad Vashem, ou même ce qu'on peut trouver ici, dans le musée du Centre de documentation juive contemporaine. Non, non. Il y a un certain axe qui est préservé, n'est-ce pas, avec un certain nombre d'idées. Je vous rappelle que jusqu'à présent, les autorités polonaises, sur le plan d'une coopération avec les organismes juifs, coopèrent officiellement et officieusement, ils fournissent des documents. Mais encore une fois, tout cela est bien limité. Tout cela, c'est dans un cadre de documents contenus. Je voudrais simplement rapporter ici un témoignage qui est celui de Salomon Friedrich, le directeur de l'Alliance l'Amitié France-Israël. Bon. Et qui a bien connu le professeur Bernmark. Bernmark était un historien juif qui était un des grands spécialistes justement du ghetto de Varsovie, qui travaillait à l'Institut historique juif de Varsovie, il est mort il y a quelques années, et Bernmark lui avait avoué que l'Institut juif de Varsovie possédait des documents extraordinaires, mais qu'il ne les fournissait pas. Je tiens à vous mentionner d'ailleurs à cet effet quelque chose qui est en rapport avec ce que nous avons parlé aujourd'hui, avec ce dont nous avons parlé aujourd'hui, qui est la publication de la chronique du docteur Emmanuel Ringelblum. Bon, nous en avons une traduction française, adaptée par Jean Noaro, et une introduction de Léopold Yakov, qui est une traduction d'un texte anglais. Ce texte anglais est une très mauvaise traduction des Notizen du docteur Ringelblum, du Yiddish donc, et ces Notizen du docteur Ringelblum constituent un texte qui est plein d'omissions. Bon. Il existe une autre édition de la chronique du docteur Ringelblum qui a été faite en deux volumes et dont l'un des auteurs se trouve ici, Adam Rutkowski, à Paris. Et cette Adam Rutkowski pourrait lui-même vous dire maintenant que ses écrits ne représentent pas toute la chronique du docteur Ringelblum, qu'ils n'ont pas pu publier tout ce qu'avait écrit Ringelblum. Et je vais vous expliquer en deux mots pourquoi. Ringelblum a eu de temps à autre des attitudes pro-polonaises. Non pas parce qu'il n'était pas conscient du problème polonais, mais parce qu'il était un historien. Et en tant qu'historien, il se voulait absolument intègre. Alors, dans les cas où il y avait à justifier la Pologne et les Polonais, il l'a fait. Alors ces éléments-là, ils sont passés, effectivement. Vous les avez dans les traductions du docteur Ringelblum. Mais les éléments anti-polonais, vous ne les trouverez pas. Ils ont tous été enlevés. Bon, et ces documents existent, n'est-ce pas ? Ces documents existent, ils sont à l'Institut historique juif de Varsovie, mais malheureusement, ils ne sont pas communiqués au public. Et il y a bien d'autres écrits, et probablement des écrits sur la période de 1943, qui existent, mais qui malheureusement ne sont pas diffusés, et c'est ce que disait Bernmark. C'est-à-dire que Bernmark avait ces documents à disposition, mais ne pouvait les utiliser dans un écrit quelconque. Oui. Comment ? J'ai parlé du docteur Ringelblum ici. Oui, oui, qui avait écrit lui-même. Oui, c'est-à-dire dans sa chronique, il avait parfois pris des positions. Non, lui-même avait pris position contre les Polonais, mais tous ces documents n'existent pas. Vous ne pouvez pas les trouver dans les écrits de Ringelblum à l'heure actuelle.
Et en ce qui concerne le 43, Michel Gorvitch n'a pas donné des indications, ainsi que les anciens combattants qui se sont échappés, qui sont maintenant au kibbutz de Yagetaro, ils sont comme le médecin, ils ont vu dernièrement à des...
Marek Edelman, oui. Alors, il y a un certain nombre de gens qui ont témoigné, mais encore une fois, comme tout témoignage, il est ponctuel, local, et ne peut englober tout l'ensemble. Or, il faut faire un travail de synthèse, et ce travail de synthèse ne peut être fait. Nous n'avons que des témoignages oraux, pratiquement. Et encore, si vous prenez le cas du grand témoin qui est Antek Zuckerman, Antek Tsukerman, qui était l'adjoint de Mordechai Anilevitch, mais pendant la révolte du ghetto, il est en zone aryenne, Antek Tsukerman, il ne participe pas directement au combat. Alors, son témoignage, bien sûr, il a eu le plus de contacts, il a un certain nombre d'éléments à nous donner, mais des documents, nous n'en avons pas. D'abord parce qu'ils ont été détruits. Il ne faut pas oublier que les bunkers, les états-majors, Mila 18, état-major de l'organisation juive de combat, ou le Setru Mouranovska, qui était l'état-major de l'Union militaire juive, ont été entièrement détruits. Toute la documentation qui était à l'intérieur a disparu. Bon, ça c'est sûr. Mais il existe des documents, et je sais par exemple qu'il existe un document qui a été publié en russe par un certain monsieur Ivanov, qui est une histoire de l'Union militaire juive, et donc des révisionnistes dans le ghetto, et qui parle beaucoup de la résistance. C'est un document qui a été publié par un diplomate russe en Russie, que les Russes ont laissé publier, il n'y a pas eu un contrôle très strict, et qui donne énormément d'informations sur ces événements. Malheureusement, le document est actuellement introuvable. Il a été retiré probablement de la circulation, et on ne trouve, à Paris il n'existe pas, mais même vous ne le trouvez pas non plus en Pologne.
En Pologne, je ne sais pas combien, on parle de 6 000 ou quelque chose comme ça.
Oui, n'importe
comment. Mais en tout cas, il existe 2 théâtres yiddish, et ça justement, c'est intéressant que Paris, qui a ici, n'est-ce pas, 700 000 juifs, et à France, et il y a 350 000 juifs à Paris, et il n'y a pas de terre de yiddish. Il y a de temps en temps une représentation, et encore.
Le yiddish n'est pas la langue des juifs de France.
Comment?
Le yiddish n'est
pas
la langue
des juifs de France. Il y a des,
elle l'était en Pologne.
C'est évident, il y a des raisons pour cela.
Oui. Alors, en ce qui concerne, d'une manière générale, la résistance en Pologne, le ghetto de Varsovie n'est pas le seul cas de résistance. Effectivement, je ne dirais pas que tous les ghettos se sont révoltés, mais un très grand nombre de ghettos a résisté, un grand nombre vraiment a résisté, s'est opposé aux Allemands. Maintenant, on connaît plus ou moins bien ces ghettos, parce qu'on a, tout le monde n'a pas fait le travail de Ringelblum, n'est-ce pas, et de ses coéquipiers. On connaît plus ou moins, on connaît assez bien pour Bialystok, par exemple. On sait ce qui s'est passé à Lodz, et dans d'autres endroits, mais il n'y a pas que les ghettos qui se sont révoltés. Dans les campagnes, il y avait des villages juifs qui se sont opposés aux Allemands. On n'en a pas de traces, très peu. On a quelques témoignages par-ci, par-là. Ça ne représente rien. Et je crois que c'est d'ailleurs un des mythes qui va être sous peu détruit par les historiens d'une manière générale. Et c'est un mythe forgé par l'antisémitisme chrétien qui a représenté pendant l'exil le juif comme l'être qui baisse la tête sous le joug et sous les coups. Les juifs n'ont pas plié les chines. Il semblerait que les juifs ont résisté. Et ceci est vrai pendant 2000 ans d'histoire juive. Je voudrais simplement vous signaler qu'il a existé depuis la chute du deuxième temple de Jérusalem en 70 de notre ère, 10 entités étatiques juives au minimum. Et quand on parle d'entités étatiques, on parle de gens qui savaient manier les armes et qui les ont maniées. Et par conséquent, dire que les juifs ont assisté à leur propre massacre sans essayer de réagir serait totalement faux. Et vraiment, la Pologne est un cas type pour montrer que les Juifs ont résisté en Pologne. Mais d'ailleurs, je crois qu'il faudrait parler d'une manière plus générale du Juif combattant en Pologne. Parce que depuis le Moyen-Âge, les Juifs de Pologne ont participé à tous les grands combats. Vous savez que la Pologne est un pays qui a subi durant son existence un certain nombre de problèmes. Elle a disparu de la carte à plusieurs reprises et elle y est apparue de nouveau à plusieurs reprises. Et à chaque fois, les Juifs ont participé aux côtés des Polonais au combat. Oui. Oui. Bon, il y a une première raison toute simple. Non, il y a une raison toute simple. En Pologne, il y avait 3 millions de Juifs, n'est-ce pas? Alors les Allemands ont profité de cette masse de Juifs. Il ne faut pas oublier que les Allemands ont réussi à détruire dans la grande masse des Juifs de l'Europe occidentale et de l'Europe d'une manière générale. Alors, le grand nombre de Juifs est fonction tout simplement de... Oh non. Non, parce que ça rentrait dans un plan très général. Oui, ça allait même beaucoup plus loin, puisqu'il y avait un joint extrêmement puissant. Et si Ringelblum, par exemple, a réussi à créer toutes ces organisations, c'est qu'il a trouvé de l'argent. Et cet argent, il l'a trouvé au joint. Il était un employé du joint et en tant que tel, se servait des caisses du joint pour essayer de sauver le maximum de Juifs. Maintenant, en ce qui concerne les filières pour sortir de Pologne. D'abord, d'une manière générale, vous savez... les frontières étaient fermées. Les frontières entre les deux guerres étaient fermées. Pour passer d'un pays à l'autre, c'était extrêmement difficile. Pendant la guerre, les Américains maintenaient la loi des quotas. N'est-ce pas ? Avant-guerre, pendant la guerre, ils ont maintenu la loi des quotas. La résistance polonaise lui a offert 3 fois la possibilité de quitter la Pologne. Il a refusé. Et nombre de militants ont refusé. Et ceci me permet d'ailleurs de reparler d'un point lié à la structure même du ghetto. Les Juifs du ghetto, avant de se soulever contre les nazis, ont discuté. À savoir, que valait-il mieux faire ? Se battre à l'intérieur du ghetto ou faire sortir le maximum de gens pour aller se battre dans les forêts ? Dans un premier temps, les sionistes, groupés tous ensemble, ont dit qu'il fallait se battre dans le ghetto, dans la structure du ghetto. Le Bund n'a pas participé à cette idée. Le Bund pensait qu'il valait mieux aller combattre dans les forêts, que c'était plus efficace, parce que leur combat n'était pas le combat du peuple juif, mais d'une ethnie juive. C'est-à-dire que la minorité juive devait combattre aux côtés de la Pologne combattante. Tandis que les sionistes disaient le ghetto, c'est une préterre d'Israël. Vous savez, il y a une phrase qui a été prononcée qui a beaucoup d'hérité. Se battre à Varsovie, c'était déjà se battre pour Jérusalem. Il y a de cela. Le ghetto de Varsovie est un symbole. C'est un symbole. Le soulèvement du ghetto de Varsovie, ce n'est qu'un symbole. Parce que, comme je disais à monsieur tout à l'heure, il y a eu énormément de soulèvements ailleurs. Bon. Mais c'est une attitude juive qui a montré le juif, non pas comme combattant, parce que le juif était combattant depuis très longtemps, Mais c'est une attitude juive qui a montré le juif en tant que peuple lié à une terre. Il ne faut pas oublier que la majorité des organisations du soulèvement étaient des organisations sionistes. Alors qu'il n'y avait pratiquement que deux organisations non sionistes, qui étaient le Bund et les communistes, mais tous les autres étaient sionistes, étaient liés à Israël. Maintenant, ça ne veut pas dire, et je tiens à le signaler, parce que c'est aussi un fait qui n'est pas connu, qu'en dehors de ces organisations, il y a eu des groupes spontanés. Les Allemands ont appelé le ghetto Gangstergau, le territoire des gangsters. Pourquoi ? Parce que pendant un certain moment, il y a eu effectivement des groupes de gangsters juifs qui s'étaient organisés à l'intérieur. Mais au moment du soulèvement, un certain nombre de ces groupes de gangsters sont intervenus aux côtés des combattants. Et il y avait des groupes spontanés dont on n'a pas de trace, ou si on en a des traces, c'est par ouï-dire, par témoignage, qui ont combattu, qui se sont spontanément révoltés contre les Allemands. Ils avaient réussi par un quelconque moyen à avoir des armes et à se battre, et quand ce n'était pas à l'arme blanche. Oui ?
Les Américains n'ont pas justement secouru et n'ont pas fait leur devoir vis-à-vis des Juifs en péril. En fait, ont-ils aidé
Il y a un livre écrit par un journaliste américain qui s'appelle Arthur Morse et qui s'intitule « Pendant que 6 millions de Juifs mouraient ». Et dans ce livre, Arthur Morse montre que les Alliés...